Culture sans frontières. Magdalena Rosinkova.
Bonjour à toutes et à tous. Culture sans frontières vous invite aujourd'hui au cinéma. Il existe peu de réalisateurs centenaires dans le monde. La République tchèque en a un. Il s'appelle Otakar Vavra et nous vous le présenterons dans ce magazine. Ensuite, le photographe français Philippe Loparelli, qui expose à l'Institut français de Prague, nous parlera de son attachement à la Roumanie.
Romance pro křídlovku, která je napsaná, to je báseň, která je úplně rozbitá, tak jsme ji spojili do příběhu jednoho.
Le réalisateur Otakar Vavra, que vous venez d'entendre, fêtera le lundi 28 février son 100e anniversaire. Monstre sacré du cinéma tchécoslovaque, il a tourné entre 1936 et 1989, précisément 49 longs métrages, dont des comédies, des films historiques, des films de guerre à gros budget, des adaptations d'œuvres littéraires tchèques, des drames psychologiques. D'un côté, des films proches de la nouvelle vague des années 60, de l'autre côté, ceux qui correspondaient à l'interprétation communiste de l'histoire. Une œuvre complexe, une personnalité complexe. Otakar Vavra est inscrit au panthéon du cinéma tchèque en tant qu'excellent réalisateur et pédagogue, en tant qu'artiste à la fois admiré et critiqué, du fait qu'il a su s'accommoder à deux régimes totalitaires. Nous allons ensemble revenir sur sa carrière. Je vous invite aussi à écouter quelques extraits d'un nouveau documentaire sur Otakar Vavra, tourné par trois réalisatrices, l'épouse du cinéaste Jitka Nemtsova, Alena Chincherova et Adela Sirotkova. Il est diffusé ce dimanche 27 février à la veille du centenaire de Otakar Vavra sur la première chaîne de la télévision tchèque. Et dès ses débuts au cinéma dans les années 1930, Otakar Vavra se distinguait par son professionnalisme et sa capacité à mettre en valeur ses projets, mûrement réfléchis et soigneusement conçus, dans un milieu concurrentiel, à en faire en plus des succès commerciaux. Jeune, il abandonne vite des études d'architecture pour se consacrer à sa passion qu'est le cinéma. Le métier de cinéaste, Otakar Vavra l'apprend tout seul, il se souvient.
Quand je voyais un bon film au cinéma, je m'asseyais et écrivais de mémoire une liste des scènes de ce film. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment le film était construit. J'ai compris où se cache le suspense, pourquoi les spectateurs ont le souffle coupé, pourquoi ils pleurent et pourquoi ils rient. Tout cela, j'ai commencé à le comprendre en lisant mes notes. Voilà comment j'ai appris à rédiger les scénarios.
Dans les films d'Otakar Vavra apparaît une pléiade d'acteurs renommés, à commencer par les vedettes du cinéma d'entre-deux-guerres, Adina Mandlova, Lida Barova, Hugo Haas, Sacha Rachilov. Il a beaucoup aimé tourner avec Zdeněk Štěpánek et Karel Heger. On écoute Jitka Němcová, épouse d'Otakar Vavra.
Vybíral si herce, musel být dobrý.
Il choisissait de bons acteurs. Il me disait, un acteur qui n'a pas bien joué m'a trahi. Donc il choisissait les acteurs en fonction du rôle et il prenait toujours les meilleurs.
Otakar Vavra continue à tourner même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il signe des films de qualité, appréciés aujourd'hui encore par le public et la critique. C'est ainsi qu'il se souvient du début de l'occupation nazie du pays.
To byla taková katastrofa, že jsme nevěděli, jestli přežijeme.
C'était une catastrophe. On ne savait pas si on allait survivre. Je ne me posais même pas la question de savoir si j'allais pouvoir tourner ou pas. J'ai appris à définir exactement ce qui dérangeait les Allemands. La censure était terrible. Ils veillaient à ce que rien dans le film ne soit anti-allemand, ni le sujet, ni l'action, ni une phrase ou même un seul mot dans un dialogue. J'ai réussi à éviter tout cela.
Uhnout, éviter un conflit, une controverse, un malentendu qui pourrait avoir des conséquences fatales sur la carrière du réalisateur. Le mot uhnout est très fréquent dans le vocabulaire d'Otakar Vavra. Il ne cache pas avoir adopté cette même attitude sous le régime communiste qui le met alors sur un piédestal et le récompense de nombreux prix. Après la guerre, en 1950, Otakar Vavra fonde, au sens propre du terme, le département de la réalisation à la FAMU, l'école supérieure de cinéma de Prague. Il forme la célèbre génération des cinéastes des années 60, parmi eux Věra Chytilová, Miloš Forman ou Jiří Mencl. Son élève Jitka Němcová est devenue sa compagne. Elle avait 23 ans, Otakar Vavra 40 ans de plus.
Nous nous sommes rencontrés quand j'étais en deuxième année à la FAMU. Quand j'ai passé le concours d'entrée à la FAMU, je le croyais déjà mort. Tout d'un coup, je me suis retrouvée face à lui. J'étais curieuse de le connaître. Nous sommes vite tombés amoureux l'un de l'autre. Il me disait, tu vas voir, 5 ans avec moi, ça va passer très vite. Maintenant, cela fait 38 ans qu'on est ensemble. Il était excellent comme professeur. Si quelqu'un nous a appris quelque chose, c'était lui.
Un chapitre intéressant dans la filmographie d'Otakar Vavra s'ouvre avec sa trilogie Husit. Il s'agit de ses grandes productions des années 1950 et qui se rapportent notamment aux personnages de Jan Hus et de Jan Žižka. Voici un commentaire sur ces films de la part de notre collègue Václav Richter.
Il est à la mode aujourd'hui de critiquer la trilogie aussi d'Otakar Vavra. On lui reproche d'avoir tourné un film sur commande politique, mais je crois qu'on oublie que le film a été réalisé dans les années 1950, donc à l'époque des pires aberrations staliniennes, à l'époque du culte de la personnalité. Et déjà, le fait d'avoir fait un tel film, de présenter Jan Hus en tant que prêtre, était un acte de courage. Et en plus, ce que j'apprécie surtout dans ce film, ou que j'apprécie aussi dans ce film, ce sont les grandes scènes de bataille Husit, parce que Vavra se présente dans ces scènes comme un grand professionnel du cinéma, un grand professionnel de l'écran. Il sait représenter les batailles historiques d'une façon très évidente et le spectateur est toujours au courant de ce qui se passe sur l'écran, quelle partie est en train de gagner et quelle partie est en train de perdre. C'est, je crois, un aspect rare qu'on ne trouve pas même dans les grandes productions hollywoodiennes aujourd'hui.
Dans les années 1960, Otakar Vavra adapte au cinéma avec succès des œuvres du poète lyrique František Hrubín, notamment sa Romance pro křídlovku, la romance pour beugle, considérée pour beaucoup comme le meilleur film de Vavra. Dans les années 60, le réalisateur est probablement à l'apogée de sa carrière. En 1969, il tourne un autre film remarquable, Kladivo na čarodějnice, un marteau pour les sorcières, d'après le roman éponyme de Václav Kaplický, film qui évoque les procès contre les femmes soupçonnées de sorcellerie à l'époque de l'Inquisition et qui, en même temps, dénonce le pouvoir totalitaire et le fanatisme en général. Le film a été interdit de distribution jusqu'en 1989. À l'époque de la normalisation, Otakar Vavra a tourné une série de films sur la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de films qui ne trouvent plus d'écho chez le grand public aujourd'hui. Otakar Vavra, qui a signé son dernier long métrage il y a 20 ans, célèbre donc le 28 février son 100e anniversaire. Une grande fête aura lieu à cette occasion à la galerie Mánes à Prague, en présence du président de la République. Place maintenant à la photographie. L'Institut français de Prague accueille jusqu'à fin février une exposition d'un collectif de 12 photographes indépendants réunis dans une structure atypique baptisée Tendance Floue. Le membre de ce groupe, Philippe Leparelli, nous parlera aujourd'hui de ses voyages à travers le monde. Il a été récompensé à plusieurs reprises par ses photographies de la Roumanie. On l'écoute.
Dans la Roumanie, ce qui m'intéresse, c'est ce sont les villages d'agriculteurs. Je m'intéresse pas du tout à la ville qui, d'ailleurs, si on prend l'exemple de Bucarest, est une ville qui est pas très bien conservée au niveau de son patrimoine. Et j'aime pas beaucoup les villes. Moi, si je vais en Roumanie, c'est pas pour passer les fêtes religieuses, que ça soit Noël ou Pâques, dans des familles où les gens vivent complètement en autarcie, où tout ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils ont cultivé ou les animaux qu'ils ont élevés. Pareil pour les vêtements. C'est-à-dire que c'est des gens qui pourraient tout à fait se passer du monde extérieur. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Plutôt que passer son temps à consommer.
Vous y allez toujours ?
J'y vais tous les ans. Tous les ans, j'y vais. Parce que pour moi, c'est cette façon de vivre, ça me rappelle un peu certains contes d'Andersen, des contes qu'on nous racontait, où les gens ont une vie très très simple, et c'est ça qui m'attire.
Et vous avez découvert la Roumanie comment, pour la première fois?
Souvent, je décide d'aller quelque part pour des raisons un peu ou irrationnelles ou plutôt littéraires. J'ai toujours voulu aller dans les Carpates. C'est un peu lié à l'histoire de Dracula, mais il y a comme ça, je pars que sur un nom ou un lieu qui me plaît, sans raison particulière. C'est simplement j'ai toujours voulu aller dans les Carpates, j'ai eu l'occasion d'y aller avec suite à un projet avec Tendance Floue, donc on avait liberté de partir dans le monde entier. Moi, j'ai décidé de les Carpates et j'ai été dans les Carpates. Donc je vais dans ces petits villages de montagne tous les ans.
Et les terres australes, c'est aussi une histoire assez particulière.
Les terres australes, c'est pareil. J'avais divorcé de ma femme, avec qui je suis toujours d'ailleurs, mais j'avais divorcé à l'époque et je voulais partir le plus loin possible. Donc dans les distances les plus loin possibles, ça a été les terres australes. Je voulais partir le plus loin qu'il était possible d'aller, quoi. J'avais pu aller dans l'espace, j'aurais été dans l'espace, mais là, c'était pas possible. Donc, je suis parti vers le pôle sud en 90 et 2001, je crois. Oui.
Et vous connaissiez Prague et la République tchèque avant de...
Oui, c'est la cinquième fois que je viens sur Prague. Oui. J'étais surtout venu en 2000-2001 lors des grosses manifestations contre le FMI, où il y avait pas mal d'anarchistes et de jeunes qui se sont confrontés avec la police. Donc, il y avait des gens qui lançaient des pavés, de la lacrymo. Il y avait une grosse ambiance. Photographiquement, c'était intéressant.
Est-ce que maintenant, vous avez un thème particulier sur lequel vous travaillez?
Je continue à travailler sur la Roumanie et également sur tout ce qui se passe dans ma rue, parce que avec les problèmes de la presse, je voyage un tout petit peu moins, parce que j'ai un peu moins de commandes. Par contre, le fait d'être immobile, de moins voyager, je suis souvent chez moi, à travailler chez moi, et je regarde ce qui se passe dans la rue, et il se passe beaucoup de choses dans la rue. Si vraiment on prend le temps de regarder, il se passe vraiment... pour trouver des choses intéressantes, des fois il n'y a pas besoin de partir très 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 loin, il y a des choses, il y a des photos à faire également dans son quotidien et dans la proximité.
Fin de Culture sans frontières sur Radio Prague. Magdalena Hrozinková vous remercie de votre attention. La suite de notre programme avec Anna Kubišta.
Courrier des auditeurs.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rubrique désormais bimensuelle consacrée à vos courriers et vos rapports d'écoute. Nombre d'entre vous semblent avoir passé le cap et continuent de nous écrire malgré l'arrêt de la transmission en ondes courtes. Malgré vos regrets légitimes, vous êtes toujours là pour la plupart et vous êtes passés sur Internet ou sur satellite. D'ailleurs, vous nous faites part tous de vos impressions liées au nouveau mode d'écoute que vous avez choisi. Évidemment, votre présence indéfectible nous touche. Cette émission est présentée aujourd'hui par Václav Richter et Anna Kubišta. Nous avons reçu avec plaisir un mail de Samu Aikawa, notre auditeur le plus lointain qui nous est resté fidèle depuis le Japon en dépit de la fin des ondes courtes.
C'est mon grand plaisir de vous envoyer un rapport de réception et j'espère que le rapport est très utile pour votre station. Comme promis, je reste en contact avec vous après la fin du programme sur onde courte et je vous écris donc aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre transmission et j'ai beaucoup apprécié votre programme matinal.
Et vous nous avez fait parvenir, Monsieur Osamu Aikawa, quelques photos avec votre mail. Nous en profitons pour en publier sur notre site. Merci beaucoup. Philippe Marsan de Biganos est également toujours fidèle au poste. Il était physiquement comme nombre d'entre vous pour notre toute dernière émission du 31 janvier et il nous a fait parvenir son ultime rapport d'écoute sur onde courte. Vous aurez bien entendu votre QSL spécial 31 janvier 2011 si vous ne l'avez pas déjà reçu entre-temps. Vous nous avez également écrit ce gentil mot.
Merci pour cette émission émouvante, notamment l'interview d'Alena Gebertova. Un regret qu'elle quitte Radio Prague.
Nous aussi, nous le regrettons, mais nous avons la chance de la compter encore parmi nous deux fois par mois pour sa rubrique « Miroir de la société ». Et vous n'avez donc pas eu longtemps à attendre, puisque quelques jours plus tard, le 4 février précisément, Alena nous a présenté la saison des balles en République tchèque que vous avez commentée justement dans un mail.
Très intéressant ce miroir de la société concernant les balles en Tchéquie. Une interview bien explicite et l'utilité de la danse également excellente pour la santé. Ici, nous nous sommes inscrits tous les deux avec Maryse dans une école de danse. Quelques pas simples de valse, valse anglaise, tango, passo doble, cha-cha, salsa, rock. L'association s'appelle Pour le plaisir de la danse et aussi un peu de cours de rythme afin de danser en mesure. Il y a aussi des danses locales, le vino griego, la paloma bianca, la polka piqué, etc. Apparemment, en Tchéquie, il n'y a pas d'études de passo doble, danse d'origine ibérique. L'écoute sur le net est bonne, mais je regrette bien la radio des ondes courtes. Qu'allons-nous faire de nos bons vieux récepteurs fonctionnant avec des lampes? Autre époque, nostalgie, mais que c'était bien agréable de farfouiller sur le cadran, cherchant dans les 49 mètres l'indicatif de la station, accrochant sur 5930.
Eh bien si, Philippe Marsan, le passo doble se pratique aussi en République tchèque. Il existe dans le pays de nombreux studios de danse où vous pouvez apprendre pratiquement toutes les danses du monde, même les plus exotiques, et surtout à Prague. Certaines sont sans doute plus populaires que d'autres. Sachez par exemple, histoire d'élargir un peu le sujet, que si la culture africaine est quand même bien moins présente en République tchèque qu'en France par exemple, pour des raisons historiques évidentes, il y a des personnes qui s'y intéressent ici et des cours de danse africaine traditionnelle sont également donné, notamment dans la capitale tchèque. À cet égard, je peux déjà annoncer la tenue dans un mois de la 10e édition du festival Afrique en création, du 19 au 27 mars prochain, où des spectacles de danse seront donnés, entre autres, à suivre très bientôt sur Radio Prague, bien sûr. William Oncourt de Gonesse, en France, nous a écrit ceci.
Je vous ai écouté le 31 janvier, c'est-à-dire la dernière émission sur onde courte de Radio Prague, sur 5930 kHz, de 19h30 à 19h57. L'écoute était mauvaise, avec des interférences via une radio en arabe, et cela donne un simpo de 2 à 1. Cela m'a été difficile de vous capter sur onde courte, mais c'est bien de supprimer les ondes courtes. Et maintenant, je vous écoute sur le satellite via WRN, depuis mon décodeur satellite ELAP Thalys 6, et ça me pose aucun problème à vous écouter.
Merci de votre mail et continuez à nous écouter et à nous transmettre vos rapports version 2011 sans les ondes courtes. René Durand d'Orvault en France nous a lui aussi écouté par un autre moyen encore que par notre site.
Bonsoir chers amis de Radio Prague, j'ai écouté votre émission d'hier, samedi 12 février 2011, à 17h30, sur le site www.wrn.org. Sur ce site, deux bandeaux, l'un mobile en haut de l'écran, l'autre fixe au centre, indiquent les différentes séquences contenues dans le programme en cours de diffusion. Il apparaît qu'il n'y a pas eu de réactualisation au 1er février 2011. C'est ainsi qu'était annoncé hier, samedi 12, le tchèque du bout de la langue. Ce soir, dimanche 13, la séquence panorama figurait également. Je me permets d'attirer votre attention sur cette anomalie.
Merci de cette précision, René Durand. Nous allons transmettre. Sachez également que vous autres auditeurs et vous-même, René Durand, que sur le site de Radio Prague, vous pouvez consulter toutes les possibilités d'écoute désormais accessibles. Il suffit de cliquer sur notre site www.radio.cz/fr sur comment écouter Radio Prague. C'est sur le côté. Abonnez-vous aussi au flux RSS, autre moyen de recevoir toutes les informations utiles sur la République tchèque en français. Voilà, c'est la fin de cette émission, votre émission avec vos courriers, vos mails, vos réflexions. Cette émission, cette semaine, était présentée par Václav Richter et Anna Kubišta. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Ahoy.
Rencontre littéraire.
Cent vingt ans se sont écoulés depuis la fondation de la bibliothèque municipale de Prague, institution essentielle de la vie intellectuelle et culturelle de la capitale tchèque. Pour fêter son anniversaire, cette institution vénérable a relevé les défis de notre temps et s'est lancée dans un processus de modernisation. Au seuil du XXIe siècle, elle élargit ses fonds, perfectionne son système de recherche dans le catalogue et s'ouvre à l'audiovisuel. Il y a plusieurs dates cruciales dans l'existence de la bibliothèque municipale de Prague. C'est en 1891 qu'a été ouverte dans la capitale tchèque la première salle de lecture municipale dans la rue Nazderaze, dans le quartier de la Nouvelle Ville. Au tournant du 19e siècle, la bibliothèque déménage et s'installe dans une maison de la place Mariale au cœur de la vieille ville, c'est-à-dire à l'endroit où elle se trouve encore aujourd'hui. En 1910, la direction de la bibliothèque a été confiée à Antonín Sova, un des meilleurs poètes tchèques de son temps. Le nom du poète a sans doute contribué au prestige de cette institution, mais à en croire l'attaché de presse de la bibliothèque Lenka Hanzlíková, le progrès radical dans l'existence de l'institution n'est venu qu'avec son successeur Jan Thorn.
C'est grâce au directeur Jan Thorn que la bibliothèque municipale a aujourd'hui sa succursale de la rue Koruny, un splendide bâtiment fonctionnaliste, mais aussi son édifice central de la place Mariale. Il a réussi à convaincre une société privée de prendre en charge l'achat du terrain où se trouvaient des maisons. Les maisons ont été démolies et on y a construit la bibliothèque municipale centrale. La municipalité ne l'a financée que partiellement car la bibliothèque a été construite en grande partie grâce à des fonds privés. C'était dans les années 1920.
C'est le projet de František Rojt qui sort vainqueur d'un appel d'offres auquel participent 5 architectes renommés. František Rojt donne à la capitale tchèque un édifice aux lignes pures et simples, dont la façade en travertin est ornée d'une rangée de statues. L'édifice, dont le style est un mélange élégant d'art déco et du fonctionnalisme naissant, voisine aujourd'hui avec la façade baroque du Clementinum, ancien couvent des jésuites, et l'architecture fin de siècle du nouvel hôtel de ville de Prague. La bibliothèque s'installe donc dans cette belle bâtisse et ne la quittera plus. Elle survivra à la Deuxième Guerre mondiale et au régime communiste sans subir de changements majeurs. Lenka Hanzlikova constate que l'ère du changement n'est arrivée que dans les années 1990.
No, tak tam je určitě moment rok 1998, kdy vlastně...
Ce moment est venu en 1998, lorsque le catalogue de la bibliothèque centrale a été numérisé. Et puis nous avons procédé à la numérisation des succursales. La dernière succursale, celle du quartier de Davidsee, a été numérisée en 2009. Elle s'est installée dans le bâtiment de la nouvelle bibliothèque nationale technique, un bâtiment moderne qui mérite d'être visité. Aujourd'hui, tous les catalogues sont interconnectés et vous pouvez donc utiliser votre carte de lecteur dans n'importe quelle succursale de Prague, ce qui est avantageux.
En février
2011, la bibliothèque municipale a complètement remanié son site internet et a mis à la disposition des lecteurs un nouveau système de recherche dans le catalogue, devenu un moyen rapide et efficace qui permet aux lecteurs de trouver sans problème non seulement l'auteur et l'œuvre qu'ils recherchent, mais aussi tous les documents disponibles sur les thèmes qui les intéressent. En ce début du XXIe siècle, la bibliothèque municipale de Prague est une importante institution qui compte au total 46 succursales. Elle se trouve dans la majorité des quartiers de la capitale. Il n'y a que quelques quartiers où la bibliothèque n'a pas de succursale, mais ils sont desservis par des bibliobus, c'est-à-dire des bibliothèques mobiles, et même les habitants de ces quartiers peuvent donc emprunter des livres. Récemment a été également mise à la disposition des lecteurs une e-bibliothèque où se trouvent des livres qui peuvent être téléchargés et lus sur ordinateur, sur portable ou sur tablette numérique. La bibliothèque centrale et ses succursales abritent un peu plus de 2 millions d'objets. Il ne s'agit pas que de livres car les lecteurs peuvent y emprunter aussi des partitions, des films, des disques, des livres électroniques et, d'après Lenka Hanzlikova, même des tableaux.
Par exemple, quand il vous manque dans votre salle de séjour quelque chose de joli que vous aimeriez regarder, venez et empruntez un tableau. Vous pouvez le regarder pendant 6 mois, puis vous pouvez prolonger votre prêt et ne rendre le tableau qu'au bout d'un an. S'il n'y a pas de réservation, vous pouvez le garder encore une année de plus.
Évidemment, il s'agit dans la majorité des cas de reproduction d'œuvres célèbres, mais la bibliothèque prête aussi à ses lecteurs des estampes originales, des œuvres graphiques récentes qui n'exigent pas un traitement spécial. La bibliothèque municipale de Prague est donc aujourd'hui beaucoup plus qu'un endroit où l'on peut emprunter des livres. C'est une médiathèque, un réseau couvrant toute la capitale. La bibliothèque centrale est aussi un important centre culturel qui abrite plusieurs salles de lecture et 2 salles de spectacle et de conférences. Pour fêter le 120e anniversaire de sa fondation, la bibliothèque s'offrira une exposition. Elle sera inaugurée à l'automne 2011 à la galerie Smetchky à Prague et présentera cette institution aux visiteurs par des textes et des documents, mais aussi, comme il se doit aujourd'hui, par des moyens interactifs. Les lecteurs seront donc invités à fêter activement le 120e anniversaire de leur bibliothèque. Je vous ai parlé du 120e anniversaire de la bibliothèque municipale de Prague. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Aleš Pezl, prise de son. L'émission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie.
Radio Praga continúa ahora sus emisiones en español.